Super, bienvenue à ce culte merveilleux du 16 février 2025, où nous allons explorer quelques discussions au sujet de la sagesse divine que Dieu nous a donnée. Dites, je marche dans la sagesse. Avant cela, j'aimerais parler d'un fait d'actualité qui m'a un petit peu marqué, qui date de l'année passée, mais qui a été passé au silence des médias traditionnels. Vous savez, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que les principes bibliques doivent être appliqués au niveau sociétal, on est d'accord, hein ? Et quand la société commence à ne plus les appliquer, eh bien, on se retrouve avec un vide spirituel qui attire toute chose mauvaise et destructrice. Et vous connaissez peut-être le philosophe Nietzsche. Ça vous dit peut-être quelque chose, le nom, ou Nietzsche, ça dépend comment on dit, mais moi je dis Nietzsche parce qu'en allemand, c'est son nom de famille, et il n'était pas vraiment allemand, mais peu importe. Et il avait fait ces déclarations, lui qui était, certains l'appellent le père du nihilisme. Le nihilisme est une doctrine philosophique qui consiste à dire que rien n'est important dans le monde parce qu'on fait juste partie du cosmos, et qu'il n'y a aucune valeur, aucune morale sérieuse, si ce n'est une morale basée sur la biologie reproductive. En très gros, c'est ça le nihilisme, en très gros. Et le nihilisme explique donc qu'il y a plusieurs degrés de nihilisme, mais le nihilisme va notamment contredire l'idée d'une vie qui a du sens. Il veut dire que la vie n'a pas de sens en soi. La vie n'a pas de raison d'être en soi, si ce n'est la reproduction. Et certaines personnes l'appellent le père du nihilisme, mais personnellement, je ne trouve pas que c'est une appellation qui est juste, selon les écrits qu'il a faits. Mais ça, c'est mon avis. Et il avait dit une chose assez intéressante une fois, il avait dit « Dieu est mort ». Dans le livre qui s'appelle Le Gai Savoir, qui est un livre extrêmement connu, qui, en parenthèse pour votre culture en général, n'a rien à voir avec l'homosexualité en soi. Je précise juste, parce que le terme peut faire croire qu'il aurait un rapport avec l'homosexualité, mais non, c'est juste un livre philosophique. Et dans ce livre, il a écrit cette déclaration que les athées ont pris comme une déclaration de victoire de leur côté, mais qui était en fait quelque chose de négatif. Il a dit « Dieu est mort ». Et quand il a dit « Dieu est mort », ce qu'il entendait, c'était que la moralité chrétienne était en train de partir de l'Occident. Et en fait, il dit dans son livre, il dit « Dieu est mort ». Et il n'était pas en train de dire « je mets l'athéisme en avant », ce qu'il est en train de dire, d'ailleurs dans le contexte, il l'explique, hein, il ne dit pas juste ça comme ça. Hein. Il dit « quand je dis Dieu est mort », c'est que la morale chrétienne qui maintenait la société hors de la sauvagerie s'en va. Et c'est un problème sociétal grave. C'est ça qu'il explique. Et j'ai trouvé très intéressant que l'Occident, chaque fois, ou n'importe quelle société, mais je parle de l'Occident, parce que l'Occident a quand même été fondé sur des principes chrétiens, quand même, n'est-ce pas ? Et que sur le long terme, chaque fois, l'Occident s'est éloigné, ça a donné des éléments tyranniques extrêmement puissants et extrêmement destructeurs. Nazisme, communisme, n'est-ce pas ? Après, le communisme, on peut encore l'étendre à toute la Chine et l'Asie, hein, n'est-ce pas ? Des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Et selon moi, cette idéologie selon laquelle Dieu est mort, ce qu'il a dit est vrai dans le sens que si Dieu disparaît de la société, la moralité va disparaître avec, le bon sens va disparaître avec, et toutes ces choses vont se retirer au fur et à mesure qu'on retire les principes chrétiens de notre société. Ce dit en passant, d'ailleurs, on n'a pas besoin, et lui, il en avait fait tout un cas, on n'a pas besoin d'être chrétien pour appliquer des principes chrétiens, ce qui est assez vrai en vrai. Mais par exemple, dans nos sociétés, ça nous paraît complètement incohérent d'avoir des relations avec une enfant, de marier une enfant. N'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est absolument mal vu à cause des valeurs chrétiennes, justement. Dans certaines communautés religieuses hors de l'Europe, ou de l'Occident plutôt, pas juste de l'Europe, marier un enfant de 6 ans n'est pas considéré comme choquant. C'est quelque chose qu'ils font régulièrement. C'est même d'ailleurs une espèce de norme là-bas. N'est-ce pas ? Qu'on parle des pays du Golfe ou de certains pays asiatiques musulmans, marier des enfants n'est pas quelque chose de choquant, ça fait partie de leur culture. Donc juste pour vous dire, le fait d'être chrétien, bien sûr, il y a l'aspect où on croit au Seigneur Jésus, on met notre foi en lui, mais il y a aussi un aspect où on applique les principes chrétiens sans même forcément, par exemple, aller à l'église tous les dimanches. Vous voyez ? Le fait même qu'on soit dans une société qui prend soin des plus démunis, qui prend vraiment soin des plus démunis. J'ai jamais vu en Suisse quelqu'un ramper au sol parce qu'il avait ses jambes qui ne fonctionnaient plus. Hein. Dans d'autres pays, je peux vous garantir que je l'ai vu plus d'une fois. Ça n'arrive pas en Suisse, ce genre de choses. Et je trouve très intéressant ce qui s'est passé avec ce fait d'actualité. Le Royaume-Uni a fait une loi dans laquelle il est interdit, c'est des endroits sécurisés autour des cliniques d'avortement où il est interdit de manifester, interdit de prier dans sa tête. Vous vous rendez compte? Donc, il y avait un homme qui était juste posé à quelques, je crois, dizaines de mètres d'une clinique d'avortement. Il disait rien, il était juste posé comme ça. Et ce qui se passait, c'est que son fils avait été tué dans une clinique d'avortement. C'est-à-dire que sa copine de l'époque avait tué leur enfant en allant se faire avorter. Et lui, il priait simplement pour son fils, qui était mort, en silence, sans rien dire à personne. Et la police l'a appréhendé et a demandé, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, je prie. Ok, vous n'avez pas le droit de prier dans cette zone, si c'est en prière en rapport avec l'avortement. Il a dit, alors je ne prie pas vraiment l'avortement lui-même, je prie pour mon fils qui est mort de l'avortement. Et ils l'ont arrêté, et il a été amené devant le juge, et il a été condamné. Donc, quand on prend les principes chrétiens et les retire de la société, vous savez que la liberté d'expression est un principe chrétien. Hein? Vous savez ça, hein? C'est un principe chrétien, la liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire que nos paroles n'ont aucune conséquence. Mais la liberté d'expression est basée sur la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu même a dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc il dit, tu peux choisir ta vie. Vous voyez un peu l'idée? Et je trouve assez intéressant de voir que quand on s'éloigne des principes chrétiens comme ça, on ouvre la porte à toutes sortes de tyrannies destructrices. Et je trouve très intéressant que ces tyrannies destructrices sont toujours opposées aux principes de Dieu, toujours. C'est jamais opposé aux principes, par exemple, de l'islam. Vous avez remarqué ça? Comment ça se fait que les gens qui soutiennent les LGBT sont les mêmes qui soutiennent l'islam? Alors que dans l'islam, c'est jamais un LGBT, c'est mise à mort immédiate. Hein, vous voyez un peu l'incohérence au niveau logique. Comment ça se fait? C'est une incohérence, on est d'accord? Parce que toute chose qui est contre la vérité vont se mettre ensemble contre la vérité. Il y a une vieille expression qui dit l'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc si quelqu'un a un ennemi commun, ils vont se mettre ensemble pour le combattre. Rappelez-vous des belligérants lors d'une guerre qui se sont mis ensemble pour combattre un ennemi commun. C'était Israël et l'Arabie Saoudite. Ce qui était impensable à l'époque, que l'Arabie Saoudite et Israël partagent les mêmes espaces aériens militaires pour combattre leur ennemi commun qui était l'État islamique. Et pourtant, c'est arrivé. Des gens que tout diffère se sont mis ensemble et ils ont dit, bon, on a un ennemi commun, on va combattre. Et j'aimerais que vous compreniez que spirituellement, l'ennemi commun de ces gens, c'est Dieu, c'est les principes de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils s'y attaquent si fortement. Et c'est pour ça qu'ils s'y attaquent d'une manière désinvolte et complète et constante. Mais nous, on marche dans la victoire, amen. Et c'est à nous de faire fonctionner cette victoire. Et nous devons faire la vérité. Donc dans ce culte du 16 février, j'aimerais qu'on prenne 1 Jean 1, 6, s'il vous plaît, dans la version d'Arby. 1 Jean 1, 6. Et on va voir les Écritures. Ah, ça va être beau, vous allez voir. Jean 1, 6. Pour ceux qui suivent un homme philosophe qui s'appelle Jordan Peterson, je pense que vous avez entendu, vous savez qu'il a récemment dit que Jésus était Dieu, hein, au niveau propre du terme, et que Jésus était sans doute ressuscité des morts d'une manière physique, pas juste philosophique. Intéressant, hein? Il dit, si nous disons que nous avons communion avec lui, notez bien, il a dit, si nous disons, et que nous marchons dans les ténèbres, donc il dit, simultanément, on dit qu'on a une communion avec lui, mais on marche, donc notre vie quotidienne se marche dans les ténèbres, il dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que le mensonge n'est pas le fait de dire qu'on a une communion avec lui, ça c'est un fait, mais le fait de ne pas marcher dans la lumière. Il est là le mensonge. Il n'a pas dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, il n'a pas dit, nous mentons et nous ne disons pas la vérité, dans le sens que ma communion est fausse. Non, la communion elle est vraie, dites ma communion est vraie. Dites ma communion est vraie. Et il dit, par contre, si tu marches dans les ténèbres tout en disant avoir une communion avec lui, le mensonge ne se situe pas au fait d'avoir dit que tu avais une communion avec lui, mais le mensonge se situe au fait que tu marches dans les ténèbres et en marchant dans les ténèbres, tu te mens à toi-même. Donc il dit, le mensonge ne se situe pas au fait de, vu que tu marches dans les ténèbres, quand tu dis que tu as communion, tu mens, c'est que vu que tu as une communion avec lui, quand tu marches dans les ténèbres, tu mens et ne pratiques pas la vérité en marchant dans les ténèbres. Donc il dit quelque chose d'intéressant, il dit, la communion avec Dieu est un fait du chrétien. Le chrétien a une communion avec Dieu. Vous voyez un peu l'idée? Il en a une. La question c'est, est-ce qu'il marche dans la vérité? Ça c'est à lui de le faire. Mais s'il ne marche pas dans la vérité, le mensonge n'est pas qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Le mensonge est qu'il ne marche pas dans la lumière. C'est quelque chose quand même. Hein, ça veut dire que le mensonge se situe dans nos actions. En fait, on se ment à soi-même quand on ne marche pas dans la vérité. C'est intéressant. Ça veut dire que, en ce qui concerne Dieu, votre communion avec Dieu est assurée. Et si vous marchez hors de cette communion, vous vous mentez à vous-même. C'est comme un poisson qui sort de l'eau. La vérité, c'est que c'est un poisson et qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes fait pour être en communion avec Dieu et vous êtes en communion avec Dieu. N'importe quel poisson, aussi méchant soit-il, si on le met dans l'eau, instantanément, il se met à avoir de l'oxygène, n'est-ce pas? Parce que c'est Ces bronchies sont faites pour filtrer l'oxygène qui est trouvé dans l'eau, n'est-ce pas? Tout comme nous, quand on respire l'air, nos poumons sont faits pour filtrer l'oxygène qui se trouve dans l'air. On est d'accord jusqu'ici, hein? Et donc, j'aimerais que vous compreniez, si vous ne marchez pas dans la vérité, le mensonge n'est pas que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Le mensonge est que vous devez marcher dans la vérité et dans la lumière. Amen. C'est beau, hein? Jacques 11, 22. Non, pardon, Jacques 1, 22. Jacques 11 n'existe pas. Jacques 1, 22. Il va dire quelque chose d'intéressant sur le fait de mettre la parole en pratique, vous allez voir. Il dit, un instant, mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement vous séduisant vous-même. Quand il dit vous séduisant vous-même, c'est vous trompant vous-même. Quand on écoute la parole et qu'on ne la met pas en pratique, on se trompe soi-même. C'est intéressant, hein? Pas vrai? Mais j'aimerais qu'on voie aujourd'hui quelque chose d'intéressant. La sagesse, alléluia. La sagesse, dites Dieu m'a rendu sage. Vous ne croyez pas ce que vous dites. Dites Dieu m'a rendu sage. Dites sa sagesse a été déposée dans mon esprit. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on voie les trois types de sagesse aujourd'hui. Il y a trois types de sagesse avec laquelle Dieu nous a bénis, par lesquelles Dieu nous a bénis et que Dieu nous a donné. Dites trois types de sagesse. Et on va aller creuser un petit peu, parce qu'en français, il n'y a qu'un seul mot qui exprime la sagesse, c'est sagesse. En grec, il y a trois mots. On va voir le premier. Vous êtes prêts? Le premier, c'est la sagesse qui se dit Sophia, qui a donné d'ailleurs le prénom Sophia ou Sophie en français. En plus, une ville, c'est juste. Et donc, la sagesse Sophia, elle inclut une sagesse théorique, théologique. C'est la connaissance de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Juste Proverbe 2.6. On va voir pas mal d'écritures aujourd'hui. Proverbe 2.6. Proverbe 2.6. Vous allez voir quelque chose. Donc, Dieu vous a donné une sagesse théologique, théorique, où vous comprenez les voies de Dieu, vous comprenez les voies du Seigneur, vous comprenez comment agir avec le Seigneur, vous comprenez comment vous relativiser au Seigneur, comment être en contact avec lui et comment agir dans les choses. Car l'Éternel donne la sagesse, Sophia, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Donc cette sagesse, elle vous amène une connaissance de Dieu, une intelligence surnaturelle. Dites, j'ai la sagesse, Sophia. Donc, comprenez ça. Dieu vous a donné cette sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Donc cette sagesse vous donne la compréhension de qui est Dieu. 1 Corinthiens 1.30. Cette sagesse vous donne une compréhension de qui est Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère, quelle philosophie a Dieu sur cette question ou l'autre, comment est-ce que Dieu opère dans le monde, comment est-ce que Dieu réfléchit sur les situations. C'est une sagesse qui vous donne une excellence dans la vie chrétienne. Amen. Une excellence dans la vie chrétienne. Vous allez comprendre des choses. Or, vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. Tu peux préparer Jacques 3, 17, si jamais. Donc, regardez. Or, vous, je ne vais pas encore le mettre, Angèle. Or, vous êtes de lui. Donc, ça veut dire que vous êtes, vous voyez. Vous savez, souvent, on doit comprendre quelque chose. On est des êtres humains, pas des fers humains. Notre identité vient de qui on est, E-S-T. Pas N-A-I-T, hein. De qui on est, N'EST, de qui on est, nous sommes des êtres spirituels. Et dit, or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse. Donc Jésus-Christ est l'incarnation de la sagesse. Il est l'incarnation de la parole de Dieu et ça nous rappelle, la sagesse, la parole de Dieu amène la sagesse, amen. Et ça nous rappelle quand Jésus-Christ dit, la parole de Dieu a été faite chair. Vous savez cette idée que Jésus-Christ est l'incarnation des prophètes et de la loi, donc de la parole de Dieu. Plus je regarde dans le monde, plus je regarde ce qui se passe, et plus je me rends compte qu'en tout point, c'est la vérité. Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Point final. Amen. Vous ne suivez pas ou... Si on peut avoir le Jacques, s'il vous plaît. Ensuite, tu peux Colossiens 2, 2 à 3. C'est qu'en fait, ce que je vais faire, Angèle, je vais donner ma feuille et je vais lire depuis mon téléphone. Comme ça, tu arrives à préparer les versets. Donc il dit quoi? Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Dites pure. Ensuite, paisible. Dites-le, modéré. Traitable. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Ça veut dire que, dites, je suis plein de miséricorde. Dites, tout dans ma vie est miséricorde et grâce. Est-ce que vous exercez la miséricorde? C'est facile de l'exercer envers les autres. C'est plus facile de l'exercer envers les autres que soi-même. Vous avez remarqué ça? On a plus tendance à pardonner les autres que soi-même. C'est quand même curieux qu'on y réfléchit. Hein. Vous devez passer au-delà des erreurs que vous avez faites. Vraiment. Ne laissez pas des erreurs vous montrer qui vous êtes, si j'ose dire. Et si on peut avoir Colossiens, cette fois, Colossiens 2, 2 à 3. Alléluia! Christ a fait de vous sagesse. Christ est devenu la sagesse pour vous. Dites, je marche dans la sagesse. Écoutez, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, terme sagesse, pour la connaissance du mystère de Dieu. Donc vous comprenez que cette sagesse vous donne la connaissance du mystère. Dieu a implémenté un mystère et il a été révélé. Et ce mystère, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ça veut dire que ce mystère a été mis à l'intérieur de votre esprit. Dites, je marche dans le mystère de Dieu. Alléluia, alléluia. Le deuxième type de sagesse, c'est la sagesse sunesis, qui est une sagesse critique, donc une compréhension, un discernement des choses. On comprend comment les choses fonctionnent, on voit les choses. Voyons, on est là, ah, telle chose. On parle de choses plus humaines, là. Dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On l'a vu aujourd'hui, hein. Tous les trésors de la sagesse sont en toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que en lui sont cachés les trésors de la sagesse. Cette sagesse qui vous fait connaître Dieu intimement. Si on peut avoir Proverbe 4, verset 7. Alléluia. Dites, je suis fort et plus que vainqueur. Le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse. C'est marrant qu'il dit ça comme ça. Il dit, commence ta sagesse en acquérant la sagesse. Donc, ce qui veut dire qu'acquérir la sagesse est notre responsabilité, n'est-ce pas? On doit marcher dans la sagesse. Un homme sage, combien de vous, vous avez en tête quelqu'un vers qui aller en cas de problème? Comment ça se fait que vous appelez cette personne et pas une autre? Parce que cette personne marche dans la sagesse et vous vous fiez à son intelligence. Et il dit, acquiert la sagesse et au prix de toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Donc, il dit, tu acquiers ta sagesse. Ensuite, tu rajoutes à ça l'intelligence. Tu marches dans l'intelligence et la force. Alléluia. 2 Timothée 2, 7. Si on peut avoir 2 Timothée 2, 7. Dites, je grandis en sagesse de toutes parts. Considère ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ou sagesse aussi. En toutes choses. Daniel 2, 21. Daniel, c'est un livre qu'on avait vu pendant la prédication sur le quatrième homme. Vous vous rappelez? Un grand homme, ce Daniel. Et c'est lui qui change les temps et les saisons et qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Alléluia, dit-je, une sagesse illimitée. Éphésiens 1, 17 à 18. Alléluia, j'aime bien quand on voit des versets de l'Ancien Testament et du Nouveau. C'est fort intéressant. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous savez, si je dis... Le père d'Alessandro. Si je dis le père de Natacha, le père de grâce, de gloire, pardon, excusez-moi, ça veut dire que vous êtes la gloire. Dieu est votre père, n'est-ce pas? S'il est le père de gloire, ça veut dire que vous êtes la gloire. Vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc il dit la sagesse pratique vous est donnée. Alléluia. Dites, j'ai la sagesse pratique. Et nous allons maintenant voir la sagesse phronesis, qui est une sagesse. Alors, la sagesse qu'on vient de voir, sunesis, c'est plus une sagesse critique. C'est-à-dire qu'on se montre plein de réflexions au sujet des choses auxquelles nous sommes confrontés. D'accord? Ensuite, phronesis, c'est une sagesse pratique, donc de prudence, une vie sage. Si on peut avoir Proverbe 14, 8. C'est quand même intéressant qu'il y ait ces déclinaisons de la sagesse. Hein, c'est quand même curieux que Dieu a en tête des déclinaisons de la sagesse. Alléluia! Si on peut avoir Proverbe 14:8, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. La sagesse de l'homme avisé est de discerner sa voie, mais la folie des sots est tromperie. Donc vous êtes un homme avisé, n'est-ce pas? Vous discernez les choses de Dieu. Vous discernez votre voie. Ok, là on parle d'une sagesse pratique dans la vie presque de tous les jours, vous comprenez? On est posé comme ça, juste posé à telle situation, que faire? La sagesse de Dieu vous guide. C'est cette sagesse qui a fait que Salomon, vous connaissez Salomon dans la Bible? Cette histoire merveilleuse avec les deux femmes et le bébé. Il est posé devant ses femmes. Deux femmes viennent le voir. Il est sur son trône, prêt à juger. Et les deux femmes disent, ce bébé est mien. Donc les deux disaient, ce bébé m'appartient. L'une dit, non. On dormait dans le même lit. Elle s'est tournée et elle a tué son bébé en l'étouffant pendant qu'elle dormait. Et l'autre disait, non, c'est elle qui s'est tournée et qui a tué son bébé. Et Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, amenez une épée. Vous savez, les épées, c'était des trucs très impressionnants. Et ce bébé était vraisemblablement nouveau-né. Il avait quelques semaines tout au max. Hein. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit Salomon? En prenant une grande sagesse, il dit, coupez-le en deux et partagez-le. Et une des femmes, elle réagit, elle dit, ça me paraît juste. Et l'autre, elle dit, non, laissez-le vivre, c'est son bébé. Qu'elle garde le bébé. C'est bon, laissez-le vivre. Il dit, celle qui a dit, laissez-le vivre, c'est la vraie mère. Vous voyez un peu la sagesse par laquelle il était emprunt? Comment est-ce la Bible dit que des gens venaient du monde entier pour écouter sa sagesse. Du monde entier! La Bible dit la terre connue, c'est-à-dire que toute la terre connue, les gens venaient. Des reines venaient, des rois venaient juste pour écouter sa sagesse. Et la Bible, Jésus-Christ nous a dit, il y a ici plus que Salomon. Donc vous avez accès à plus de sagesse que Salomon, parce que vous avez non seulement une sagesse pratique que Salomon avait, mais vous avez une sagesse de discernement spirituel qui fait que vous grandissez dans le discernement des choses de Dieu et dans le discernement pratique. Mais j'aimerais que vous compreniez ça. Dieu vous a donné la sagesse. Cette sagesse est à l'intérieur de votre esprit maintenant. Et cette sagesse vous guide dans les décisions de vie à entreprendre et à appréhender. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes confronté à une situation de vie, donc de tous les jours, au travail, avec vos finances et tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous donne énormément de sagesse pratique. Dans les Proverbes, par exemple, ou dans Ecclésiaste. N'est-ce pas? La Bible nous donne des sagesses extrêmement pratiques, qui font qu'on arrive à marcher dans la plénitude de Dieu. OK? Alors, on va juste aller assez rapidement parce que j'aimerais qu'on voie ces aspects ensemble. Amen. Colossiens 4, 5. Ah, marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Donc quand vous marchez dans la sagesse, vous saisissez les occasions que Dieu vous tend. Amen. Vous saisissez des occasions merveilleuses. Dites, je saisis des occasions. Ok. Ensuite, Matthieu 7, 24. Et Luc 2, 52. Quiconque donc entend ces miennes paroles, donc mes paroles, et les met en pratique, je le compare à un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Et après, il explique, il y a des tempêtes qui viennent, mais ces tempêtes ne déstabilisent pas la maison. Ok, continuons encore. Luc 2, 52. Et grandissait ou grandissait en sagesse et en stature. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bible dit que Jésus pouvait grandir en sagesse. Il ne parle pas de la sagesse de Dieu ou de la connaissance de Dieu, il parle de la sagesse pratique de tous les jours. Jésus grandissait et comprenait comment le monde fonctionnait et comment opérer avec le monde. Et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Alléluia, dites, je grandis en faveur auprès des hommes et de Dieu. Est-ce que vous croyez ces choses-là? J'aimerais qu'on voie quelques avantages de la sagesse. Numéro 1, notez ces choses-là, c'est important. La sagesse nous rend financièrement riches. Proverbe 8, 18, s'il vous plaît. Alléluia, quand vous marchez dans la sagesse, vous marchez dans une telle prospérité financière. Dites, je suis sage dans les finances. Avec moi sont les richesses. Donc, c'est la sagesse qui parle là. La sagesse, si jamais, c'est l'incarnation de Dieu. Il dit, avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Proverbe 3, 16. La Bible nous dit, longueur de jour est dans sa droite, donc la droite de la richesse, et dans sa gauche, richesse et honneur. La sagesse vous donne de l'honneur. Vous avez de l'honneur auprès des gens. Et ne vous en faites pas, les gens vous critiqueront, peu importe. Aucune importance. Les gens critiqueront votre doctrine même. Je trouve très intéressant que Vous savez, ils ont fait un article contre Pasteur Chris, la BBC, British Broadcaster Channel, qui est donc une station de news, entre guillemets. Et la seule chose qu'ils ont réussi à critiquer Pasteur Chris, c'est sur sa doctrine. Par exemple, qui prêche que la maladie n'appartient pas à l'enfant de Dieu. Qui prêche que il est inutile pour un enfant de Dieu de marcher dans la pauvreté. Ils n'ont pas pu le critiquer sur son caractère. C'est quand même intéressant, je trouve. J'ai un autre homme de Dieu que je connais qui s'appelle Andrew Womack. Même chose, quand ils ont fait des articles sur lui pendant la pandémie de Covid parce qu'il a poursuivi le gouvernement en justice, la seule chose qu'ils arrivaient à l'accuser, c'était sur sa doctrine. C'est quand même intéressant, hein? Que personne ne puisse accuser ces hommes de Dieu sur leur comportement, par exemple, qui géraient mal l'argent, qui seraient des coureurs de jupons. Toutes ces choses-là, personne n'arrive à les critiquer, ces deux hommes de Dieu en particulier. Il y en a d'autres qui arrivent à les critiquer sur ça. D'ailleurs, quand ils sortent des articles, c'est sur le fait qu'ils dépensent l'argent stupidement, des autres hommes de Dieu. Hein. Ça reste des hommes de Dieu, attention, hein, mais ils peuvent faire des erreurs aussi. Qui ne sont pas fidèles à leurs femmes, ce genre de choses-là. Et j'étais intrigué du fait que ces deux-là, qui sont d'ailleurs ceux qui enseignent la grâce et la foi d'une manière la plus profonde, quand les gens écrivent contre eux, et ça arrive souvent, ils écrivent toujours sur leur doctrine. Genre, vous n'arrivez pas à croire ça, Andrew Womack prêche que le Covid ne peut pas le toucher, que si le Covid le touche, c'est lui qui mourra. C'est ça qu'Andrew Womack avait dit. Il dit, si le Covid touche mon corps, c'est le Covid qui va mourir. Et on le critique pour ça. C'est intéressant quand même, hein, qu'on n'arrive pas à critiquer quelqu'un sur ça, sur son caractère, mais uniquement sur sa doctrine. Ça peut être beau. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit, attention si tout le monde parle bien de vous. Faites attention. C'est normal d'être critiqué quand on est dans la justice. Vous êtes prêts? On avait dit Proverbe 3, 16. Oh, la longueur, ça c'est magnifique. Alléluia. Ecclésiaste 7, 11 à 12. Ha, la sagesse pratique. Vous marchez dans une telle sagesse que l'argent vient à vous de tous côtés au nom du Seigneur Jésus. Vous marchez dans une telle sagesse que vous savez quoi faire dans toutes les situations. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage et profitable pour ceux qui voient le soleil. Verset 12 qui dit, tranquille, tranquille. Car on est à l'ombre de la sagesse, comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Donc il dit, la sagesse peut même vous donner des idées business, vous voyez? Elle vous donne des idées business sur comment être riche, comment investir votre argent. Je parlais avec des gens et je ne comprends pas. La Bible nous donne des instructions très claires sur comment gérer notre argent. Très claires. Tel pourcentage faut mettre de côté. Tel pourcentage faut donner, tel pourcentage va dans telle dépense. Point. C'est pas si dur. Hein. Les principes de base de Dieu, c'est simple. Il y en a trois. Vous pouvez les noter si vous voulez. Ça, je vous le dis, c'est hors du message, mais entre vous et moi, il y a trois principes de base pour gérer son argent. Numéro un, 20% de vos revenus doivent être mis de côté. Simple. Et vous savez quoi? Si ça veut dire que vous devez déménager dans un appartement plus petit ou renoncer à une voiture ou je ne sais quoi, faites-le. Si vous voulez appliquer la parole de Dieu. 10% de votre argent doit être donné. Minimum 10%. Doit être donné spécifiquement à l'église locale, et si vous n'avez pas d'église locale, il doit être donné au ministère qui vous nourrit. 10%. Et ensuite, un autre principe, c'est les prémices. On donne ces prémices au Seigneur. C'est-à-dire que, une fois par année, ça c'est selon votre foi, vous faites une offrande spéciale pour le Seigneur. C'est tout. C'est les trois principes de base. Et quand on applique ces principes-là, on est riche. Et ces principes-là sont répétés dans les Écritures encore et encore et encore. Pourquoi pas plus que 20% de mettre de côté? On peut mettre plus que 20%, on a le droit, hein. Mais la Bible dit de ne pas trop mettre de côté non plus. Parce que si quelqu'un met toujours de côté, ça veut dire qu'il met sa confiance dans l'argent et pas dans le Seigneur. C'est intéressant quand même, hein? Vous voyez comment on applique les choses de Dieu. On devient riche, riche, riche. Dieu veut que vous soyez riche. Amen. Dites Dieu veut que je sois riche. On va aller un peu plus vite parce que je n'ai pas envie que vous vous endormiez. La sagesse nous rend, ça paraît bête ce que je veux dire, mais plus sage. Vous marchez dans la sagesse. Proverbe 9:9. Proverbe 9:9. La Bible nous dit, excusez-moi. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Donc vous voyez, il dit, enseigne le juste et il croîtra en science. Donc croître, ça veut dire grandir, n'est-ce pas? Il prendra de la croissance en science. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous dites, ah, j'ai la sagesse, gloire à Dieu qui est en moi. Mais je veux plus de sagesse pour marcher dans ce que Dieu a pour moi. Et vous commencez à prier et vous commencez à augmenter votre sagesse. Est-ce que la prière en elle-même augmente votre sagesse? Non. Vous pouvez prier en langue 10 heures par jour, votre sagesse ne va pas augmenter. Mais on va voir comment la sagesse augmente. Vous êtes d'accord? Je vous transmettrai, si vous voulez, l'étude biblique que j'ai faite. Mais j'accélère un petit peu parce que je n'aimerais pas que, n'est-ce pas? On va aller directement. La sagesse nous fait gagner des âmes. Proverbe 11:30. Ha 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 ha. Proverbe 11:30, vous allez voir quelque chose. J'ai envie que vous puissiez étudier ça à la maison, n'est-ce pas? Je pourrais vous transmettre mes notes. Proverbe 11:30. Ha ha ha. Dites, je gagne des âmes grâce à la sagesse. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. Pourquoi? Parce que les gens viennent à vous. Vous voyez, les gens viennent à vous quand ils ont un souci. Et vous exposez la sagesse de Dieu. Vous dites, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et les gens le font et leur vie est embellie par cette sagesse. Et ils disent, d'où vient cette sagesse? Et vous commencez à enseigner les choses de Dieu, à enseigner les principes. Vous savez, des fois je lis les proverbes, qui est donc un recueil plutôt d'une sagesse pratique quotidienne. N'est-ce pas? Et je vois des choses que j'ai maintenant observées par moi-même dans le monde. Par exemple, une des choses qu'il dit, il dit, jeune homme, attention à la femme à la langue mielleuse. Il dit, parle d'une femme qui attire. Il dit, à l'étrangère qui veut coucher avec toi. Et il parle là spécifiquement de femmes qui utilisent leur charme pour détruire des hommes. Et moi, j'ai toujours pensé, vous savez, ayant grandi dans un milieu relativement, j'ai envie de dire chrétien ou assez prude sur ces questions-là, pour moi, il y avait une approche où une prostituée, c'était cette femme-là seulement. Cette passage-là parlait seulement vraiment d'une littérale prostituée à la rue de Genève. Alors que pas du tout, en fait. Il parle aussi, bien sûr, peut-être d'une prostituée lambda, mais du fait de coucher avec la première venue ou du fait de coucher avec une femme facile. Et il démonte cette idée, qui d'ailleurs aujourd'hui est devenue rampante parmi les jeunes, que de coucher avec un maximum de filles, c'est quelque chose d'avantageux. C'est faux! C'est faux, faux, faux. Vous savez, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit un truc intéressant. Il a dit, les femmes, quand elles couchent beaucoup, elles perdent de la valeur. Et j'étais là, alors, c'est vrai. Et les hommes? Et selon la réflexion de cette personne, c'était, non, non, les hommes, quand ils couchent beaucoup, ils gagnent de la valeur. Et j'étais là, ok, quelle est la réflexion derrière ça? Et il y avait une réflexion qui tenait la route au niveau logique. Sa réflexion, c'était, eh bien, les hommes doivent travailler plus dur pour pouvoir avoir accès aux femmes que les femmes accès aux hommes. Et j'ai dit, oui, alors oui, bien sûr, mais... La question n'est pas là, parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense, n'est-ce pas? Et Dieu, il dit quoi? Il dit que si tu ne peux pas te contrôler sur ce niveau-là, tu ne peux pas contrôler ta ville. Il dit, d'ailleurs, même si tu ne peux pas contrôler tes paroles, tu ne peux pas contrôler une ville. Il dit, celui qui contrôle sa langue est plus fort qu'un homme qui contrôle 10 villes. Il précise 10 villes. Et vous savez, à l'époque, ce n'était pas une ville genre le conseil municipal. Hein. C'était une ville où il y avait des gens qui pouvaient mourir si vous ne faisiez pas gaffe. C'est intéressant quand même, hein? Jésus-Christ est Seigneur et sa sagesse nous conduit. Alléluia. D'où vient la sagesse? Alors, on va voir un verset par domaine. J'ai noté vraiment beaucoup de versets, Angel. T'as vu ça un peu? Il doit y avoir 25 au moins. Mais on va pas faire ça. La parole de Dieu donne Sophia. Proverbe 2,6. Vous savez, on a déjà vu Proverbe 2,6. On va aller dans Jacques 1, 5. Jacques 1, 5. Donc, vous devez comprendre que ces trois types de sagesse viennent de la parole de Dieu. Amen. Les trois. C'est pour ça que vous venez à l'église, c'est pour ça que vous lisez la rhapsodie, c'est pour ça que vous étudiez votre Bible chez vous. Parce que la parole de Dieu va créer en vous ces trois types de sagesse. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et qu'il ne fait pas de reproches, et il lui sera donné. Donc si vous manque de la sagesse, de connaissance de Dieu, Sophia, demandez-la au Seigneur. Seigneur, je veux marcher dans cette sagesse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Numéro 2. Sagesse. Sunesis, excusez-moi. Daniel 1, 17. Alléluia. Donc, cette sagesse vient de la parole de Dieu aussi. Toute sagesse vient de la parole de Dieu. Regardez. Et à ces jeunes gens, aux quatre, donc il y avait quatre gars, Dieu donna de la science et de l'instruction dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel avait l'intelligence en toute vision et dans les songes. Donc, vous voyez que la sagesse avait été donnée par Dieu, par sa parole. C'est beau, hein? Vous savez, d'ailleurs, petit point positif. Vous êtes déjà posé la question pourquoi les rois mages, qui venaient donc de Babylone, vraisemblablement, savaient que Jésus allait naître. Intéressant, hein? Comment se fait-il que les rois mages, qui n'étaient pas juifs, connaissaient la prophétie biblique sur le roi des juifs qui allait naître comme Messie? Je vais vous le dire. C'est très simple. Parce que à l'époque de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui avaient amené les manuscrits bibliques parce qu'ils avaient été enlevés déplacés, n'est-ce pas? Il y avait eu une. Comment on appelle ça? C'est un déplacement de population, c'est un exil. Ils avaient pris les Juifs d'Israël, ils les avaient amenés à Babylone. Et les Juifs avaient pris avec eux tout plein de manuscrits bibliques, n'est-ce pas? Et ces manuscrits bibliques étaient restés à Babylone. Et les gens de Babylone, une fois que l'exil était retourné, qu'ils étaient retournés dans leur pays, les manuscrits étaient restés, d'ailleurs une partie copiée en grec. C'est ce qui a donné la Septante, qui a été traduite en grec avant même que Jésus vienne, je crois. Vous imaginez à quel point c'est puissant. L'Ancien Testament avait été traduit en grec tellement il avait touché des civilisations entières. Et ils ont vu qu'il y avait une prophétie sur le Messie. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit, ah, cette étoile, c'est l'étoile du Messie d'Israël, le roi des Juifs et le roi du monde. Et ils disent, donc en fait, c'était marrant parce que même les Juifs de l'époque, qui avaient été complètement pris par leur judaïsme pharisien, pharisien et religieux, ont même pas vu que le Christ était né, mais des non-juifs qui avaient lu les écrits bibliques ont compris que Jésus était né, que le roi des Juifs, ils ne savaient pas qu'il s'appelait Jésus, hein, que le roi des Juifs était né, et c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est beau, hein? C'est magnifique, ça veut dire que l'Ancien Testament a, et les prophéties bibliques ont vraiment fait imager la venue du Christ et que d'autres nations ont commencé à croire au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il y a une femme syrophénicienne, donc hors du peuple de Juifs, d'Israël, pardon, qui savait qui était Jésus? Vous posez cette question, alors bien sûr, elle avait la réputation globale de Jésus. Je pense que la réputation de Jésus, elle est bien au-delà des frontières. Mais peut-être qu'elle avait été aussi informée des écrits bibliques. C'est beau ça, hein? Les écrits bibliques avaient transvasé hors de la culture juive au point qu'aujourd'hui encore, les rois mages sont glorifiés. On parle des rois mages partout. On dit qu'ils étaient trois, mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient trois spécifiquement. Les gens disent trois parce qu'il y avait trois cadeaux. Donc ils disent qu'ils étaient sûrement trois rois mages. Un cadeau par roi mage. Peut-être qu'ils étaient 20, on ne sait pas combien ils étaient. Ils étaient deux. Alléluia. Et on va voir un dernier, si vous êtes d'accord. Verset, la sagesse phronesis. On va prendre Colossiens 4, 5 à 6. Alléluia. Dites la sagesse fait mon intelligence. Il dit marcher dans la sagesse envers ceux de dehors. Saisissons l'occasion. En fait, on l'a déjà vu avec l'autre. Vous savez quoi? On va prendre Proverbe 14:8, si vous êtes d'accord. Alléluia. Proverbe 14:8. Donc, vous devez grandir dans ces trois types de sagesse par la parole. La parole fait cette sagesse en vous. La sagesse de l'homme avisé est de discerner sa voie, mais la folie des sots est tromperie. Alléluia. Donc, il dit l'homme avisé. Et vous pouvez mettre, mesdames, la femme avisée. Il parle de l'humain, bien sûr. Il ne parle pas juste d'un homme au sens masculin du terme. Il parle de l'humain. Quand vous êtes avisé, vous discernez votre voie, mais la folie des sots est tromperie. Regardez, il y a des choses que je trouve très intéressantes. Gloire à Dieu.